On est actuellement dans une série, pour ceux qui sont des habitués de Netflix, vous comprenez de quoi il s'agit. On poursuit une étude, et là on a une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul au 1er siècle, et c'est une lettre qu'il a écrite à des chrétiens qui se réunissent à Corinthe, une ville particulièrement agitée, qui ressemble beaucoup à ce que sont nos grandes villes aujourd'hui en Occident. Et j'aimerais aujourd'hui évoquer la sexualité, mariage et célibat, d'après le chapitre 7 de 1 Corinthiens. Je vous invite à en faire la lecture à présent. On va lire en deux fois tout ce long chapitre. On va commencer jusque et on en fera une pause au verset 24. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de maîtrise, de même qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, et c'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu veux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Après avoir traité les problèmes de l'église de Corinthe, tous les désordres dans les chapitres 1 à 6, Paul répond là dans les chapitres suivants aux questions que les Corinthiens lui ont envoyées. Vous avez noté au chapitre 7, verset 1, « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. » Et donc là, il entreprend des réponses pour les frères de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe étaient environnés de toutes sortes de tentations. Même parmi les païens, cette ville de Corinthe était réputée pour son immoralité sexuelle, pour la prostitution sacrée, c'est-à-dire il y avait un grand temple, le temple d'Aphrodite, et là il y avait des femmes qui se livraient à la prostitution sacrée, si on peut dire. Et dans le chapitre 6, versets 9 à 10, qu'on a vu la semaine dernière, l'apôtre Paul, ici, énumère certains péchés caractéristiques de Corinthe. Je vous relis quelques-uns. Il dit « Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est ce qu'était pour plusieurs des Corinthiens avant de connaître Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il dit au verset 11 du chapitre 6. « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et au fond, que ce soit dans l'église de Corinthe, que ce soit dans notre église, nous avons eu des vies avant de connaître Jésus-Christ. Et parfois, ces vies ont été livrées au péché et à la débauche et à toutes sortes de troubles. Et finalement, les Corinthiens, ici, ils écrivent à l'apôtre en lui demandant « Mais explique-nous, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'on doit se comporter dans les domaines de... sexuel notamment. » Et je trouve que notre société occidentale actuelle est tellement, elle est hyper sexualisée, hyper matérialiste, centrée sur soi, axée sur le plaisir, sur l'expérience, sans engagement. Et du coup, cette lettre, elle nous aide beaucoup, je trouve, à comprendre la pensée de Dieu et comment vivre ici-bas. Les Corinthiens, ils veulent vivre maintenant et plaire à Dieu et rompre avec leur ancienne vie. Et donc, ils ont fait parvenir à l'apôtre plusieurs questions. Et dans le chapitre 7, Paul répond à des questions du genre, on lit un peu, on imagine les questions qu'ils ont pu poser. Mais ça pourrait être, est-ce que la sexualité est mauvaise? Doit-on s'abstenir du mariage? Parce qu'il ne faut pas se marier. Faut-il s'abstenir de relations sexuelles dans le couple pour être plus spirituel? Que devrait-on faire si l'un des époux devient chrétien et pas l'autre? Devrait-on se séparer? Est-ce mal de vouloir se marier? Je suis veuve, veuf. Est-ce que je dois me remarier? Et donc, je vous propose de voir ce matin trois pensées. Tout d'abord, que le célibat, c'est bien, mais pas dans le mariage. On verra encore que le célibat ou le mariage, peu importe. Et enfin, on verra, ne gâchez pas votre célibat. Regardons d'abord, le célibat c'est bien, mais pas dans le mariage. Vous comprenez un peu ce que ça dit? Versets 1 et verset 8, l'apôtre Paul dit que le célibat est une bonne chose. Ce n'est pas simplement une bonne chose, c'est-à-dire moralement une bonne chose, mais il dit ici, le mot qu'il emploie, c'est un mot qui signifie plutôt « c'est une belle chose ». C'est même quelque chose de désirable. C'est-à-dire que la vie sans mariage ou la vie sans sexe n'est pas incomplète, n'est pas une vie incomplète. La volonté de Dieu n'est pas nécessairement le mariage. Il n'y a pas besoin d'être marié pour être heureux et pour être dans la volonté de Dieu. Néanmoins, c'est ce qu'il dit à partir du verset 2, les tentations sexuelles sont une raison valable de rechercher le mariage. Verset 2, il dit « pour éviter la débauche, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari ». Ce n'est pas la seule raison, mais c'est celle que l'apôtre Paul met en avant ici. Et dans les versets 5 et 9, il dit « si quelqu'un manque de maîtrise à deux reprises, manque de maîtrise par rapport au désir sexuel, qu'il se marie. Mieux vaut se marier, verset 9, que de brûler ». Ça ne signifie pas non plus que ceux qui manquent de maîtrise doivent épouser la première personne venue, parce qu'il faut aussi faire face à la, il vaut mieux faire face à la pression du désir sexuel qu'aux conséquences d'un mariage malheureux. Remarquez aussi qu'il pose immédiatement les bases ou le cadre des relations sexuelles. Il dit, et il le définit ainsi, que c'est le mariage d'un homme et d'une femme. Chaque mot est important ici. le mariage, comme il est présenté dans les Écritures, c'est une alliance publique, permanente, monogame, hétérosexuelle. Et dans ce cadre du mariage, le sexe est une obligation juste et joyeuse. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Et c'est très important cette pensée ici. Ne vous privez pas l'un de l'autre. N'utilisez jamais les relations sexuelles dans le mariage comme un moyen de pression. N'utilisez jamais les relations sexuelles dans le mariage comme une récompense. T'as été sage ? Était gentille aujourd'hui. Jamais. Ainsi, on n'est pas plus saint en privant un époux ou son épouse de ses droits conjugaux. Bien au contraire. À une éventuelle abstinence sexuelle, l'apôtre Paul, il met deux restrictions au verset 5. Tout d'abord, elle doit résulter d'un consentement mutuel. Pour s'adonner à la prière, un peu comme un jeûne de nourriture. Et la seconde condition, c'est qu'elle soit temporaire, passagère. On peut prier et faire l'amour. Ça n'est pas incompatible. On n'est pas moins spirituel en faisant l'amour à sa femme. Le sexe dans le mariage est une chose sainte. Le célibat ou l'absence de relations dans le mariage ne l'est pas. Dans le mariage, nous protégeons notre conjoint et nous-mêmes des tentations sexuelles pécheresses. Il dit ici, le diable sait comment vous tentez et ruiner votre vie, votre témoignage. Les relations sexuelles, elles sont là pour célébrer notre union. Elles sont là pour se souvenir de l'alliance que l'on a contractée. Et en cela, elles sont excellentes. Quand on prend la Sainte Cène, en tant que famille en Christ, on partage le pain, le vin, qu'est-ce qu'on fait? On est en train simplement de se souvenir de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. On se souvient de l'engagement qu'il a pris à nous aimer tels que nous sommes. On se souvient de ce qu'il a pardonné nos fautes. Quand on s'est engagé dans le mariage, on s'est engagé à cela, les uns vis-à-vis des autres, à se pardonner, à rechercher la communion l'un avec l'autre, à rechercher la réconciliation s'il y a une tension. Quand on prend la Sainte Cène, on se souvient de cela. On n'est pas parfait. Au contraire, on sait qu'on est des pécheurs. Mais on prend la Sainte Cène pour se souvenir de ce que Jésus-Christ nous a aimés. Et quand vous faites l'amour dans un couple, dans votre couple, vous vous souvenez de ce que vous vous êtes engagé à vous aimer, à prendre soin de l'autre, à vous pardonner, à vous encourager dans la foi. Vous renouvelez cette alliance, vous renouvelez votre engagement. Et en ce sens, les relations sexuelles dans le couple sont tellement essentielles pour célébrer votre mariage, votre union. Verset 7b, Paul dit « Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Le mariage et célibat, au fond, sont des dons de Dieu. Dieu accorde à certains la grâce du célibat et à d'autres la grâce de se marier. L'un n'est pas moralement supérieur à l'autre, et tous les deux représentent des défis et des avantages pour le service du Seigneur. Il est donc important que nous acceptions la condition qui est la nôtre. Lorsque Paul dit « Je voudrais que chaque homme, que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire célibataires », il exprime son désir de voir plus de croyants se consacrer complètement au ministère de l'Évangile. Libre comme lui des responsabilités familiales, libre de pouvoir partir en voyage missionnaire, s'engager dans le service de l'Évangile. Dans les versets 10 à 16, il relève un autre aspect d'une mauvaise conception de la vie chrétienne dans l'église de Corinthe. Certains chrétiens, corinthiens, qui voulaient servir Christ, pensaient qu'ils devaient se séparer pour être plus spirituels. D'autres, ayant connu Christ après leur mariage, pensaient qu'ils devaient se séparer de leur conjoint incroyant. Paul dit, non, ne faites pas ça. Le mariage est un lien permanent. La foi en Christ comme Sauveur et Seigneur ne détruit pas l'alliance du mariage que Dieu a établie lors de la création. Le conjoint chrétien, il doit désormais exercer une saine influence sur son mariage, sur son couple, sur ses enfants. La pensée était probablement que rester uni à un non-croyant pouvait nuire aux chrétiens. C'est faux. Ce qui nuit à la vie du chrétien, c'est son péché, pas son conjoint, ni son état civil, même s'ils vont être déterminants dans le type de vie qu'ils vont devoir mener. Dieu utilise toutes choses. Il utilise un conjoint non-croyant, il utilise un conjoint croyant, il utilise un mariage heureux, il utilise un mariage difficile pour accomplir son œuvre de transformation dans nos vies et nous faire porter du fruit à sa gloire. Ça, c'est la vocation. Ça, c'est notre vocation. Être transformé, changé à la ressemblance de Jésus-Christ. Et pour cela, Dieu a des outils. Le mariage, le célibat, l'un et l'autre sont bien. Mais si le conjoint incroyant ne tolère pas la foi en Christ du conjoint chrétien, si l'incroyant désire se séparer, Paul dit ici, il est préférable de le laisser faire, afin de préserver la paix. On est appelé à vivre en paix, verset 15. Mais le chrétien, lui, ne devrait pas être à l'initiative de la chose. Le principe qu'il établit au verset 17 est donc le suivant. Que chacun continue à vivre dans la condition dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Appelé, c'est-à-dire lorsqu'il a été conduit à croire en Jésus-Christ. Principe qui va rappeler au verset 20 et 24, à trois reprises quand Paul rappelle un tel principe, ça veut dire que c'est fondamental, c'est crucial pour l'ensemble de notre texte. Ce qui m'amène à ce deuxième point. Célibat ou mariage, peu importe. Paul donne ici deux applications de ce principe. Au verset 18 et 19, il parle de l'identité culturelle, juif, non-juif, circoncis, incirconcis. Et au verset 21 à 23, il parle ici d'esclaves ou d'hommes libres, c'est-à-dire plutôt de notre condition sociale. Dans l'église de Corinthe, il y a des croyants qui sont mariés, d'autres qui sont célibataires, d'autres qui sont d'origine juive, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des esclaves, il y a des hommes libres, des patrons, des employés. Et chacun pense que sa vie chrétienne serait meilleure si sa condition changeait. Peut-être vous pensez comme cela. Trouvez des difficultés dans votre célibat. Vous dites, Ah, si seulement j'étais marié, je pense que tous mes problèmes seraient réglés. Parlez avec votre voisin qui est marié. Il pense, oh là là, quand j'étais célibataire, j'avais pas de problème. Certains disent, mais oh là là, si seulement j'étais patron. Ah non, fini d'obéir à ce chef. Et puis le chef se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de commencer cette entreprise? Si seulement j'étais salarié, je pourrais rentrer ce week-end chez moi et oublier mon travail. Et finalement, on est souvent dans une réflexion comme ça, où on cherche toujours à que notre condition change pour qu'on puisse vivre la vie de chrétien. Il est évident que l'apôtre n'encourage pas les croyants à rester dans une situation ou une activité illégale ou immorale. Un voleur professionnel ne doit pas continuer à voler une fois chrétien. une prostituée du temple d'Aphrodite devrait cesser ses activités. Mais Paul dit ici, on peut être chrétien partout. On peut être chrétien dans une dictature et on peut être chrétien dans une démocratie. Je ne dis pas que c'est plus simple. On peut être chrétien en étant marié, célibataire, divorcé, veuf ou veuve. On peut être chrétien en tant que patron ou employé, en tant que policier, soldat ou inspecteur des impôts. On peut être chrétien en tant que peintre, avocat, plombier ou médecin, comme en tant que comptable, missionnaire ou agent de nettoyage. Quoi qu'on soit et où que l'on soit, on peut être chrétien. Nous ne devrions pas consacrer tous nos efforts à vouloir changer les circonstances dans lesquelles nous sommes, mais plutôt faire tous nos efforts pour obéir à Dieu dans l'état où nous sommes. Ça, c'est le verset 19. La circoncision n'est rien. Imaginez quand les Juifs entendent ça. L'incirconcision n'est rien. Par contre, l'obéissance, c'est tout. Pour Paul, ce n'est pas votre nationalité ou votre profession ou votre état civil qui est quelque chose, mais c'est votre obéissance à Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas ici des prescriptions religieuses de la loi, mais plutôt un appel à aimer, un appel à conformer sa vie à Jésus-Christ. La seconde application qu'il fait au verset 21 à 23 se rapporte aux conditions d'esclaves. Il n'est pas en train de dire ici qu'il faut approuver l'esclavage. Il ne donne pas l'impression non plus que que l'esclavage est une aussi bonne condition que celle d'homme libre. Ce n'est pas son propos. Ce qu'il veut faire comprendre, c'est qu'un esclave peut vivre la vie chrétienne aussi bien qu'un homme libre. Et c'est ce qu'ont démontré d'une manière puissante les esclaves noirs américains il y a 2 siècles, en exprimant leur foi, leur espérance, leur liberté dans leur chant gospel. Dieu ne justifie pas ici les gouvernements corrompus ou les sociétés immorales. Il les juge en son temps et à sa manière. Mais le but de l'Évangile est de révolutionner non pas nos institutions sociales, mais nos cœurs. Ce faisant, si nos cœurs sont touchés, nous devenons des chrétiens fidèles, plus fidèles, de meilleurs maris, de meilleures épouses, de meilleurs serviteurs, de meilleurs maîtres, de meilleurs fils et meilleures filles, de meilleurs citoyens. Et tout cela, ça contribue à une société meilleure. Mais le but, c'est le cœur. L'Évangile doit être et peut être semé et germé partout, dans tous les milieux. Paul, il ajoute au verset 21, « Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Peut-être il a peur que certains disent « Oh là, moi je suis esclave. Bon ben alors je vais rester esclave, quoi, pour être plus spirituel. » Non, non. Profites-en plutôt. L'esclavage ne t'empêche pas d'être chrétien, d'être libre, ne t'empêche pas d'être chrétien non plus. Simplement, si tu deviens un homme libre, ou si tu es un homme libre, souviens-toi que tu es avant tout esclave de Jésus-Christ. Et si tu es un esclave, souviens-toi que Dieu t'a affranchi, il t'a libéré. Alors ne te remets pas sous l'esclavage des hommes. Verset 23. Il ne parle pas ici de l'esclavage physique, mais spirituel. Il parle de cet esclavage qui nous pousse à nous comparer aux autres. Il parle de cet esclavage des hommes qui nous pousse à vouloir être autre chose, d'être plus ceci ou plus cela, de jalouser les autres ou de craindre les hommes, de rechercher leur approbation à tout prix. Ça, c'est un véritable esclavage et ça va dicter tous vos comportements. Mais Christ nous a rachetés à un grand prix. Il est mort sur la croix pour que nous soyons libres. Je lui appartiens désormais. Ça signifie que je suis son enfant. Je suis aimé de lui parfaitement, pardonné et accepté de lui. Je suis co-ouvrier avec Christ. Je suis l'ami de Christ. J'ai tout pleinement en lui. Au verset 24, il dit encore, il rappelle le principe, mais il ajoute ici, vous avez remarqué, ces mots, que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Peu importe votre état civil, marié ou célibataire, divorcé ou veuf, peu importe votre situation professionnelle, employé, patron, chômeur ou retraité, peu importe votre culture, juif ou pas, blanc ou noir, ce qui importe, c'est d'obéir à Dieu et de vivre et de jouir de sa présence. C'est la présence de Dieu qui anoblit toute position. C'est bon d'être célibataire quand on le vit avec Christ. C'est bon d'être marié quand on le vit avec Christ. Il y a trois implications pratiques que j'aimerais faire avec ça. Tout d'abord, la première, c'est que Dieu est beaucoup plus préoccupé par la façon dont vous vous comportez dans votre situation, célibataire, fiancé, marié, divorcé, veuf ou veuve, que par le fait que vous changiez d'état civil. Ce qui occupe Dieu et ce qui le préoccupe, c'est votre état aujourd'hui et dans votre relation avec lui, devant lui. Dieu est beaucoup plus préoccupé par la façon dont vous vous comportez dans le travail que vous avez aujourd'hui, maintenant, que par le fait que vous obteniez un nouveau job ou une promotion. Est-ce que dans votre situation, vous jouissez de la présence de Dieu et obéissez à ses commandements? Deuxième implication, le principe de demeurer dans l'état dans lequel nous étions lorsqu'il nous a rencontrés n'est pas absolu. Si vous pouvez devenir patron, si vous pouvez vous marier, faites-le en demeurant esclave de Christ. Que votre ambition première, ce soit d'être avec et pour Christ. Et puis si vous vous posez la question, c'est notre troisième implication, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, pour mes études? Quel métier dois-je faire? Vais-je me marier, me remarier si vous êtes veuf ou divorcé? Sa volonté est que vous mainteniez une relation étroite avec lui et que vous trouviez premièrement votre joie en lui et que vous vous appliquiez à lui obéir. Quelqu'un a dit, si vous n'êtes pas heureux en étant célibataire, vous ne serez pas heureux en étant marié. Votre bonheur ne dépend pas de votre mariage ou de votre célibat. Votre bonheur dépend de votre relation avec Christ. Mais il ajoute, verset 39, en ce qui concerne le mariage, simplement que ce soit dans le Seigneur. Faites ce que vous voulez, mais si vous vous mariez, que ce soit dans le Seigneur, c'est-à-dire avec un croyant, une croyante, quelqu'un qui partage votre foi, votre conviction. Enfin, ne gâchez pas votre célibat. Après avoir déclaré que le célibat et le mariage sont tous deux bons et justes aux yeux du Seigneur, Paul va néanmoins, dans les versets suivants, 25 à 40, là, donner quelques avantages au célibat. Je vous propose d'en faire la lecture, 25 à 40. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Quand il dit « je n'ai point d'ordre du Seigneur », mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Ici, il n'est pas en train de dire avant c'était Jésus qui parlait et maintenant c'est moi Paul. Non, il est en train de dire Jésus ne s'est pas exprimé sur ces choses-là. Moi, je m'exprime de la part de Dieu pour ces choses-là. C'est le même niveau d'autorité et d'inspiration. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Ne gâchez pas votre célibat. Le célibat, c'est une situation de vie que tous connaissent un jour, durant une période plus ou moins longue. Certes, nous devrions considérer attentivement ces propos pour ne pas gâcher notre célibat. On pense au célibat, bien sûr, avant le mariage, mais je vous propose de l'élargir au célibat après un divorce ou après le décès de votre conjoint. Paul se donne en exemple à plusieurs reprises. Au verset 7 et 8, il dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi ». Sa vie de célibataire n'est pas un hiver sombre qui attend le printemps du mariage. Non, il vit pleinement sa vie en Christ. C'est un chrétien joyeux, Paul. Il a parcouru tout l'Empire romain pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Il a implanté de nombreuses églises. La grande mission de la vie, ça n'est pas le mariage. La grande mission de la vie, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre être et notre prochain comme nous-mêmes. Célibataire, vous avez devant vous une énorme opportunité de pouvoir accomplir ces deux buts. Aimer Dieu et aimer votre prochain. Alors que la personne mariée est partagée entre son conjoint et le Seigneur, le célibataire qui se maîtrise peut servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Les opportunités de servir Dieu dans la mission, ou d'étudier, de prendre du temps dans les Écritures, de faire des visites, de rendre des services, sont votre privilège. Ne gâchez pas cette période de votre vie. C'est tellement profitable. Vivez-la passionnément. Vivez-la en Église. Exercez votre fidélité, votre persévérance, votre engagement. Un jour, vous serez peut-être amené à prendre un engagement aussi sérieux que le mariage. Si vous ne vous êtes pas entraîné à cela pendant votre célibat, vous n'y réussirez pas mieux marié. Entretenez-vous dans votre célibat à servir Christ passionnément. Vous pouvez partir en mission. Vous pouvez partir étudier, vous pouvez partir le servir. Vous avez toutes vos soirées disponibles pour le servir, le glorifier. Cette période-là va passer. Peut-être passer. Profitez de ce temps qui vous est donné pour le service du Seigneur. Le plan d'expansion du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament, ça reposait beaucoup sur l'idée d'être de la multiplication physique. Vous vous souvenez des paroles de Genèse, Dieu les bénit et puis il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et au fond, quand on est célibataire, on est un peu exclu de ce programme. Mais Jésus, en venant, il a changé ça. Et le plan de Dieu, c'est de remplir le ciel. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça notre œuvre, c'est ça la mission à laquelle nous sommes appelés. Vous avez remarqué aussi au verset 28, Paul ne cache pas qu'il y a des tracas dans la vie de couple. Si le mariage était le moyen de résoudre toutes nos difficultés, il n'y aurait pas tant de divorces. Et le problème ne vient pas du mariage. Le mariage, ça reste une très très belle idée, un très beau projet. Mais c'est le problème de nos cœurs. Et Paul dit, verset 28, j'aimerais vous épargner tous ces tracas. Et puis, il donne un autre argument. Il dit, verset 29 à 31, le temps est court. Je sais que parfois, pour un célibataire, ce n'est pas le genre de parole qu'on aime beaucoup, quoi. Quand vous avez attendu, le temps est court. Ce n'est pas vraiment ce que je dirais. Mais Paul essaye de nous donner une perspective éternelle. Il nous aide à lever les yeux. Et là, il dit, regardez, le temps est court. Ce que votre vie est ici-bas, c'est un point. L'éternité, c'est long. Et puis il dit, dans l'éternité, on ne va pas prendre de mari. Les femmes ne prendront pas de mari et les maris ne prendront pas de femmes. Je suis désolé hein, pour les mariés qui vivent une romance absolue. Ça va s'arrêter un jour. Et si c'est tellement beau la relation amoureuse que vous pouvez jouir, dont vous pouvez jouir ici, si les relations sexuelles sont tellement épanouissantes, etc., imaginez ce que ça va être au ciel. Nos cœurs vont être remplis, rassasiés. Puissance 1000. Et donc il dit ici, votre condition pour l'éternité, ce ne sera pas d'homme marié ou de célibataire. Ou plutôt, on sera tous célibataires au ciel. Mais on sera complètement rachetés, complètement ressemblant à Jésus-Christ, complètement capable de s'aimer. Et du coup, c'est cette perspective-là, la vraie, la juste. Et donc, je trouve ça encourageant pour les célibataires. Il dit, là, vous vous préparez à l'éternité. Vous servez, vous pouvez servir Dieu déjà dans cette perspective. Tandis que beaucoup d'entre nous s'inquiètent des choses du monde et des moyens de plaire à notre femme ou à notre mari, le célibataire se préoccupe des choses du Seigneur. Bien entendu, le mariage n'empêche pas une grande consécration au Seigneur. Mais il comporte des éléments qui peuvent empiéter sur cette consécration. Ne gâchez pas votre célibat. Profitez des libertés et du temps que votre célibat vous offre. Allez manger avec des jeunes couples mariés, avec des enfants si possible. Ils vont vous parler un peu de leur nostalgie. ne gâchez pas votre célibat. Profitez des libertés et du temps que votre célibat vous offre. Enfin, et les versets, le dernier verset, verset 39, dit « Le mariage, c'est un CDI. Un CDI sans démission possible. » C'est comme s'il nous invite à bien réfléchir. Ce qui met un terme au CDI, c'est la mort. Ce qui met un terme à votre mariage, c'est la mort. Jusqu'à la mort de votre conjoint, vous êtes marié. Même quand il est usé, vous êtes toujours marié avec lui. Je pense à des couples qui vivent Alzheimer. Des vieux couples, le mari ou la femme, maintenant est entièrement dédié à son conjoint. Il surveille son conjoint comme le lait sur le feu. Le matin, la nuit, le jour, il veille dessus, réparant toutes ses bêtises. Privé d'une relation, d'une communion et d'un échange, il continue, il persévère. C'est très beau. C'est très dur aussi. Très lourd. Il n'y a plus d'autre activité pour eux. Seul, s'occuper de son conjoint. Je pense que ça nous invite à bien réfléchir, à se marier. Et ça nous invite aussi à réfléchir au célibat. Peut-être on fait du tort au célibataire en montrant qu'une vie chrétienne, c'est presque uniquement une vie d'hommes et de femmes mariés. Et je pense qu'on devrait se souvenir de ça pour valoriser le célibat. C'est une excellente chose. Quand il dit il est bon d'être célibataire, il emploie un mot grec particulier. C'est désirable. À cause de la croix, la vie conjugale n'est pas meilleure que le célibat. Les deux peuvent être des bénédictions de Dieu et chacun peut être utilisé pour la gloire de Dieu. Quel que soit notre état, aie mon Dieu et servons-le passionnément. Ne méprisons pas ceux qui se marient ou ceux qui ne se marient pas. Encourageons-nous plutôt les uns les autres dans la condition dans laquelle nous vivons pour glorifier Dieu. Ce n'est pas par hasard si vous êtes où vous êtes, si vous êtes ce que vous êtes. Dieu poursuit votre transformation et veut que vous l'aimiez et que vous le serviez avec joie. Simplement, fleurissez là où Dieu vous a planté. Fleurissez là où Dieu vous a planté. Amen.